Bonjour, ici KL de www.soundclick.com/KL. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'avenir.
Bienvenue à la 8e émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Merci d'être là, fidèle au poste. Merci également à Kael d'avoir bien voulu introduire cette émission. Kael, celui que j'appelle avec un clin d'œil l'homme aux mille voix, est un des artistes les plus talentueux qu'il m'a été donné de rencontrer. Je le connais depuis si longtemps que je ne parviens plus à mettre une date sur notre première rencontre. Multidisciplinaire, Kael est chanteur, acteur et poète à ses heures. Il a été très impliqué dans le cinéma régional et a même tâté du théâtre. Pour nous, il prête sa voix à quatre personnages dans la présente production, dont Curton Nagez et Sandorf. Il est également très impliqué dans la deuxième aventure de Mazas. Nous l'avons aussi entendu dans le rôle d'Albert dans Carl et Novi, Complot sur Alpa, et il interprétera trois personnages dans les aventures de l'estrade. Mentionnons enfin qu'il interprète la chanson thème de cette mini-série. Cette chanson est en ligne et vous pouvez l'entendre sur le site de KL ainsi qu'à l'adresse suivante. www.archive.org/détails/l'estrade-thème. L majuscule ESS, espace forcé, S majuscule TRADE, espace forcé, THEME. Maintenant, une mauvaise nouvelle. J'apprenais récemment que Gcast, le site qui héberge nos podcasts, refusera tout nouveau upload à partir du 1er février prochain. Cela signifie que je perds l'hébergeur de notre émission quotidienne. Est-ce la fin de notre podcast? Pas si je peux faire autrement, assurément. J'explore présentement les possibilités de podomatic.com. D'ailleurs, vous retrouverez toutes nos émissions à l'avenir.podomatic.com. J'en ai commencé le référencement, dont sur iTunes. Vous trouverez plus de détails à ce sujet sur notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. La semaine dernière, Mazas, Steve et Curton avaient atterri sur l'Opus 4, planète bagne des prêtres de Baalol, non sans se faire rudement secouer. Nous les avons laissés au moment où Mazas et Steve s'apprêtaient à sortir du cœur de Fomalo, le petit vaisseau de Steve. Et maintenant, la suite de Mazas Pavel, agent de l'OMU.
Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Chapitre 1. Troisième partie. Émergeant du canyon, ils se coulèrent parmi la végétation luxuriante que tapissait une boue favorable à l'essor des mauvaises herbes et se faufilèrent entre les arbres aux troncs énormes, mais à la hauteur limitée par les conditions météo-cycloniques qui régnaient sur l'Opus 4. Les frondaisons basses mais denses de la forêt les protégeaient momentanément de tout risque de découverte. Mais la prison se trouvait au milieu d'un no man's land stérile, où toute pousse végétale était éradiquée régulièrement au thermoradiant. Le satellite de l'Opus 4 répandait une lumière parcimonieuse qui ne traversait en aucun endroit, d'épais plafonds de feuilles, obligeant les deux compagnons à allumer les lampes qui pendaient sur leur poitrine afin d'éclairer leur progression. Il leur fallut près de 2 heures pour atteindre la zone dénudée entourant la forteresse, car ils avaient cessé d'utiliser leur réacteur propulseur anti-G, par précaution, dès qu'ils avaient estimé pouvoir être repérés.
Nous allons utiliser nos déflecteurs pour nous rendre invisibles aux gardes et aux écrans de surveillance. Mais il est probable qu'il y ait également des détecteurs thermiques. Aussi, tu vas enfiler cette résille.
Fouillant dans son sac à dos, la jeune femme en retira une sorte de vêtement arachnéen fabriqué dans une espèce de voilage plastifié. Elle le lui tendit.
C'est imperméable aux infrarouges. Et dès que tu mets la cagoule qui est dans la poche droite, le tissu emprisonne la chaleur de ton corps, pendant un certain temps, du moins.
Dommage que je n'ai pas eu ce gadget lors de mes expéditions. En tout cas, avec les déflecteurs et ce machin, notre entrée dans la prison devient presque une promenade de santé.
Alors, prie tes dieux pour qu'il n'y ait pas de prêtres balol en service, car avec leur faculté psy, ils sont capables de détecter nos ondes cérébrales malgré nos précautions.
Pendant quelques minutes, ils contemplèrent les murs de la sinistre prison, où tout était calme. Mazas se tourna vers Steve et chuchota.
Ce fichu temps va finalement nous rendre service. Les rafales de vent et la pluie qui tombe depuis un petit moment vont sérieusement diminuer la visibilité, ainsi que l'attention des gardes qui sont forcément blasés par ces conditions météo habituelles.
Bon, allons-y.
D'une allure souple et régulière, l'agent de l'OMU et le pilote franchirent le kilomètre de terre dénudée qui menait à l'entrée de la forteresse. Ils s'arrêtèrent, à peine essoufflés, au pied d'un des hauts murs du rempart. Étant invisibles, il leur fallut quelques instants pour se retrouver au toucher. Mazas saisit son compagnon par le poignet et l'entraîna jusqu'à la sortie du collecteur des égouts qui se déversait dans une petite rivière au courant important.
Bonjour l'hygiène.
Ne put s'empêcher de penser Steve en voyant les immondices de toutes sortes disparaître au fil de l'eau. Mais déjà, sans s'occuper de l'aspect extérieur des choses, la jeune femme l'entraînait derrière elle en rampant dans le conduit. Cette balade sur le ventre, en se glissant dans un tuyau à peine assez large, et en remontant le courant tout en se faisant percuter continuellement par des détritus de tout genre, et qui plus est dans l'obscurité, car Mazas ne voulait pas courir le moindre risque d'être découvert, devait rester un bon moment ancré dans leur mémoire. Mais tout a une fin, et ils finirent par aboutir à une grille aux barreaux épais, construite en terconite. La jeune femme retint le bras de Steve, qui se préparait à découper la serrure au laser. Elle fit courir le faisceau lumineux de sa lampe sur toute la surface de l'obstacle qui les interrompait dans leur progression, et d'un léger coup de coude attira l'attention du pilote sur un mince fil presque translucide qui était en contact avec l'un des gonds. Si la porte s'ouvrait, nul doute qu'une alarme se déclencherait à l'intérieur de la prison. Mazas entreprit de desceller les barreaux un à un au laser, en évitant tout choc qui aurait pu activer le système de sécurité. Steve commençait à trouver le temps long. Lorsque la jeune femme déposa le dernier barreau au sol, il l'invita à le suivre. Les deux égoutiers d'occasion poursuivirent leur cheminement parmi les détritus et finirent par aboutir dans une salle au plafond bas. Une volée de marches suintantes d'humidité permettait d'accéder à une plateforme triangulaire dont le sommet tronqué se terminait sur une porte. Ils s'y hissèrent. Passant machinalement la main sur sa combinaison pour enlever les déchets peu ragoûtants qui la souillaient, Mazas examina les lieux à la lumière de sa lampe. Apparemment, il s'agissait d'une sorte de carrefour où aboutissaient 6 collecteurs d'égouts. La plateforme menait visiblement à l'intérieur de la forteresse. Mais à quel endroit? La jeune femme hésita un court instant. Fallait-il entrer par cette porte ou continuer par l'un des collecteurs? Avec un haussement d'épaule, elle choisit la première solution et entreprit l'examen de la serrure. Steve la poussa légèrement sur le côté en murmurant
« Laisse, c'est ma spécialité. »
Elle lui jeta un coup d'œil et acquiesça d'un signe de tête. Le pilote fouilla dans une des poches de sa combinaison et en extirpa un petit boîtier muni de 2 fils métalliques souples. Il appliqua ces derniers de part et d'autre de la serrure magnétique, manipula un curseur tout en surveillant les indications qui s'incrustaient sur le petit écran. Puis, il introduisit un petit rectangle de plastique dans la fente entre la porte et le chambranle.
Le système d'alarme est désactivé. Est-ce que j'y vais ?
Mazas s'écarta un peu de la porte en braquant l'arme qu'elle venait de sortir de son étui.
Un pistolet à aiguille ?
S'étonna le jeune homme.
C'est ce qui est le plus silencieux et qui ne dégage aucune énergie qui puisse être repérée.
Pour éviter le bruit, moi, j'utilise le couteau de jet.
Steve s'affaira quelques instants en glissant sa carte alternativement vers le bas et vers le haut. Un léger déclic se fit entendre. Avec infiniment de précautions, il commença à entrouvrir la porte de quelques centimètres. Il glissa un œil par la fente, mais n'aperçut qu'une salle ronde, vide de tout occupant. Il ouvrit plus franchement et invita
« Après vous, Major Mazas !»
Avec un sourire amusé, l'envoyé d'Atlan se glissa dans l'ouverture, tous les sens en éveil. Puis, elle fit signe au pilote de la rejoindre.
« Peux-tu la refermer sans la verrouiller, en cas de retraite précipitée ?»«
Pas de problème !»
Debout, au milieu de la pièce nue, ils fixèrent leur regard sur les 2 portes diamétralement opposées qui menaient sur ailleurs.
Laquelle ?
Interrogea Steve. Avec une moue dubitative, Mazas lui répondit
La gauche.
Et s'avançant de quelques pas, elle appliqua la paume de sa main à l'emplacement d'ouverture. Sans le moindre bruit, la porte coulissa dans le mur, leur révélant un couloir éclairé à guirlandes. Ils s'y engagèrent, armes au poing, sur le qui-vive. Au moment de refermer la porte, Mazas eut un haut-le-cœur. Elle saisit Steve par le bras et le ramena dans la salle qu'il venait de quitter.
Ben, qu'est-ce qui t'arrive ?
Les traces.
Il suivit du regard ce qu'elle lui désignait. Les marques de leurs pas, humides et parfois constellées de parcelles innommables.
Il faut essuyer tout cela, sinon les Antilles ne tarderont pas à savoir qu'ils ont des visiteurs.
Et de l'autre côté, dans le couloir ?
Je m'en occupe tout de suite.
Elle ouvrit furtivement la porte, s'assura que le couloir était toujours désert, s'accroupit et effaça rapidement les 3 empreintes qui s'y trouvaient, à l'aide d'un foulard qu'elle avait sorti d'une poche de sa combinaison.
Tu avais peur de prendre froid au cou ?
Non, c'est mon porte-bonheur.
Puis, l'air dégoûté, elle fit de même avec celle qui se trouvait dans la salle, avant d'essuyer les semelles de leurs bottes souples. Elle fit une boule du linge souillé et le remit en poche.
Cette fois, je crois qu'on peut y aller.
La traversée du couloir se fit sans incident. Ils aboutirent dans une rotonde où s'ouvraient 4 portes. Sans hésiter, Mazas entr'ouvrit la plus proche, découvrit une salle radio vide et la referma aussitôt. Elle ouvrit successivement les 2 suivantes et le referma de même. La 4e lui offrit ce qu'elle cherchait, un escalier montant. Devant l'air interrogateur de son compagnon, elle expliqua
« Logiquement, si on veut garder des prisonniers, il vaut mieux les enfermer au centre de la forteresse. Comme ici, nous sommes au niveau des égouts, il faut forcément remonter.
Elle s'y engagea, suivie du pilote qui referma soigneusement dans son dos. Sur la pointe des pieds, ils gravirent une vingtaine de marches, l'œil et l'oreille aux aguets et l'arme au poing. Soudain, Mazas s'arrêta et se retourna vers Steve, l'index devant la bouche. Puis, elle montra trois doigts. Le pilote hocha la tête, montra deux de ses doigts en se désignant, puis un doigt qu'il dirigea vers Mazas. Mais celle-ci lui signifia sa désapprobation et inversa les rôles. Un pour Steve, les deux autres pour elle. Avec une grimace de désappointement, le jeune homme s'inclina. Ils poursuivirent leur montée et s'efforcèrent d'apercevoir leurs adversaires dès qu'ils atteignirent le haut des marches. À première vue, l'escalier débouchait sur une salle de corps de garde meublée de tables, de chaises et de lits de camp. Mais grâce aux lunettes spéciales qu'ils avaient chaussées à leur sortie des égouts, ils s'aperçurent que l'entrée était défendue par des faisceaux entrecroisés de lumière noire qui interdisaient toute possibilité de passer sans déclencher l'alarme, même s'ils enclenchaient leur déflecteur. Le système électronique ne se laisserait pas abuser par leur état d'invisibilité. À l'une des tables, trois prêtres soldats subalternes terminèrent leur repas en échangeant parfois quelques monosyllabes. Deux d'entre eux tournaient le dos à l'escalier, tandis que le troisième, qui y faisait face, était à moitié retourné pour s'emparer du pichet qui se trouvait sur la table derrière lui. Mazas, qui avait repéré l'emplacement du système de neutralisation de l'alarme, prit aussitôt sa décision.
« Prends celui de face, je m'occupe des deux autres »,
souffla-t-elle. Sans répondre, son compagnon brandit son couteau, qui vola dans les airs, et se ficha dans la gorge de sa victime. Dans le même temps, la jeune femme abattait les autres soldats de deux coups de son pistolet aiguille. L'action n'avait pas duré plus de 5 secondes, et ils se retrouvaient maîtres du terrain. Il leur fallait cependant pouvoir couper le rayon invisible qui barrait l'entrée de la salle, s'ils voulaient y pénétrer.
« Dommage que l'émir ne soit pas là »,
songea Mazas en contemplant le levier qui servait à neutraliser le faisceau électronique, sachant qu'il faudrait bien y arriver, sans l'apport des dons de télékinésiste du mulot Castor. Elle répondit par un haussement d'épaule à l'interrogation muette de Steve. La manette à abaisser se trouvait à un peu plus de 2 mètres de la porte, fixée au mur. La distance était minime, mais il aurait fallu posséder une perche assez longue pour l'atteindre en passant au-dessus de l'entrelac des faisceaux. Comme ce n'était pas le cas, il leur fallait trouver un autre moyen. Et rapidement, Mazas attarda son regard sur l'ouverture qui permettait d'accéder à la salle des gardes, et son visage s'éclaira.
« Tu es costaud, Steve. Pourrais-tu soulever une petite femme comme moi sans problème ?»
Le pilote la dévisagea, un peu interloqué.
« Oui, sans doute. »
Alors, tu vas me lever à bout de bras, à l'horizontale, et me projeter par-dessus les faisceaux.
Par-dessus ?
Oui, entre le haut du chambranle et les faisceaux supérieurs, il y a environ 50 cm de libre. Je vais m'allonger bien droite. Tu me soulèveras le plus haut possible en te rapprochant des faisceaux et tu me jetteras dans la salle.
Rien que ça ?
Comme cela, je saurai si tu es un vrai mâle ou uniquement un baratineur.
Un sourire découvrit les lèvres du jeune homme.
« Si je réussis, quelle sera ma récompense ?»«
Le droit de continuer à vivre encore un moment. Au moins, jusqu'au prochain obstacle. »
Steve s'agenouilla, les bras repliés, paumes vers le haut. Mazas s'assura rapidement que rien ne dépassait de sa combinaison de combat, dégrafa sa ceinture d'armes qu'elle posa au sol, glissa un couteau dans la tige de sa botte droite et s'allongea sur les mains de son compagnon. Celui-ci se redressa alors lentement, avant de se tenir droit, la jeune femme à bout de bras. Elle se raidit, essayant de rester la plus droite possible. Steve s'avança de deux pas, presque à toucher la barrière infranchissable qui les séparait de la salle.
Prête ? Oui.
Il concentra toutes ses forces dans ses bras et la projeta le plus haut et le plus loin possible. Pendant une fraction d'éternité, il eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre et que le temps s'était figé. Puis le corps de Mazas, après avoir heurté la voûte, se replia sur lui-même et retomba au sol en un roulé-boulé impeccable. La seconde suivante, elle sautait sur ses pieds et se hâtait de neutraliser l'alarme. Les jambes encore un peu tremblantes, tant son effort avait été violent, le pilote pénétra son tour dans la salle et tendit ses armes à Mazas. Sans un mot, ils se regardèrent et la jeune femme lui fit un clin d'œil complice qui le remplit de joie.
« On forme une bonne équipe tous les deux. Si tu veux, je peux te pistonner pour entrer à l'OMU. Les dieux m'en gardent. »
Steve se pencha sur les trois corps étendus.
« Ils sont tous morts.
J'aurais bien aimé en garder un en vie pour lui faire dire où se trouvent les prisonniers. »
« Sans doute au bout de l'un de ces couloirs. »
ironisa-t-il en désignant trois ouvertures qui béaient au fond de la salle.
« Merci, mais au lieu de dire des sottises, tu ferais mieux de m'aider à dissimuler nos victimes. »
Mazas et Steve prirent les cadavres un à un et les dissimulèrent du mieux possible derrière les lits de camp qui occupaient un des côtés de la salle. Puis l'envoyé d'Atlan s'approcha successivement des trois couloirs dans l'espoir de trouver une indication permettant d'atteindre le plus rapidement possible leur but. En vain.
« J'ai bien peur qu'ils faillent tous les visiter. »
chuchota-t-elle. Elle allait passer à l'acte quand Steve s'approcha rapidement d'elle et la poussa dans l'entrée du couloir. Elle n'eut pas besoin de lui demander d'explication, car elle entendit un bruit de voix provenant du passage contigu. Quelques instants plus tard, deux soldats débouchèrent dans la salle en discutant. En n'apercevant pas ce qu'ils venaient relever, ils s'arrêtèrent, surpris. L'instant d'après, ils gisaient au sol, assommés. Sans avoir eu besoin de se concerter, les deux visiteurs avaient bondi sans leur laisser la moindre chance d'esquisser un geste de défense. Et les deux geôliers se retrouvèrent entravés avec leurs propres menottes magnétiques. Mazas entreprit alors de réanimer l'homme qu'elle avait envoyé au pays des songes quelques instants plus tôt. Sous l'effet des massages qui lui étaient prodigués, le soldat reprit rapidement connaissance. Mais, s'il eut l'intention de donner l'alerte, la pointe du couteau que Mazas avait appuyé sur sa gorge l'en dissuada complètement.
« Où se trouvent les prisonniers ?»
Le garde Chiourm roula des yeux terrifiés, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. La pointe qui s'enfonça de quelques millimètres dans sa chair le rendit plus prolixe. Il désigna de la tête le couloir central, celui par lequel il était arrivé.
« Combien y a-t-il de gardes ?»«
Deux. »«
Seulement ?»
s'étonna la jeune femme.
« Nous sommes sept en tout par quart. Trois étaient ici quand nous sommes venus pour la relève. » Il n'y en a donc plus que deux en bas.
Je l'espère pour toi.
Elle plaça ses mains de part et d'autre du cou de son captif et le rendormit d'une pression au niveau des carotides. Puis, elle lui appliqua une bande de ruban adhésif sur la bouche.
Tu devrais en faire autant pour le tien.
Inutile, apparemment il n'avait pas le crâne très solide.
Plus le temps passait, et plus les risques d'être découvert augmentaient, même si de nuit, une bonne partie des gardes était dans ces cantonnements. Aussi, leur plan fut rapidement mis au point.
« Je vais y aller seul, mais il faut que je sois sûr de ne pas me faire coincer là-bas. Il faudra donc que tu restes ici pour empêcher des curieux éventuels de venir me déranger. »«
Ne t'inquiète pas, je vais transformer cette salle en fort Alamo et je tiendrai le coup jusqu'à ton retour. Mais tâche de faire vite. »
Elle s'approcha de lui, se haussa sur la pointe des pieds et lui colla un rapide baiser sur la joue. Puis, sans lui laisser le temps de réagir, elle s'engagea dans le couloir menant aux prisons avec un signe de la main. Le tunnel qu'elle empruntait était légèrement en pente descendante et son éclairage tamisé provenait de tubes enfoncés dans des niches. Le sol était recouvert d'un plastique souple qui absorbait tous les bruits de pas. Au bout d'une quinzaine de mètres, le couloir formait un angle de 45 degrés environ. Maza s'y arrêta et, allongeant le cou, regarda ce qu'il y avait au-delà. Une vingtaine de mètres après le tournant, une vaste salle semblait s'ouvrir. Nulle présence hostile n'étant en vue, la jeune femme poursuivit sa progression. Elle s'arrêta à l'entrée, le corps incrusté dans la muraille de terconite. De là, elle put englober toute la salle de son regard, passa, sans s'attarder, sur les cages en métal où croupissaient des prisonniers à tonnes, et eut la satisfaction de découvrir les deux gardes dont elle recherchait la présence. L'un d'entre eux était assis à une table en train de lire un micro-livre sur un écran, la main droite posée sur un éclateur. L'autre déambulait entre les cages, les intégrateurs en bandoulière. Il lui fallait éliminer les deux hommes, mais l'ordre dans lequel elle allait procéder était essentiel si elle voulait avoir une petite chance de vivre une vieillesse paisible. Elle s'accorda donc quelques instants de réflexion avant de se décider. Lorsque celui qui déambulait contourna une des cages et lui tourna momentanément le dos, elle jaillit du souterrain et ajusta le garde assis derrière la table à l'aide de son couteau. Avec un bourdonnement sourd, celui-ci vint se ficher dans la gorge de l'homme, qui fut projeté en arrière et s'écroula par-dessus le dossier de sa chaise. Mazas, qui excellait dans le maniement des armes de jet, s'était fabriqué elle-même ce poignard. Muni d'un moteur atomique miniaturisé, qui le propulsa à une vitesse supérieure à 200 km à l'heure, tout en rendant sa lame incandescente, il permettait à sa propriétaire d'atteindre des cibles mouvantes situées jusqu'à 150 mètres de distance. Poursuivant sa course souple, elle sprinta vers le centre de la salle et se laissa tomber au sol, roulant sur elle-même lorsque le second garde se retourna. Il balayait l'entrée de couloir avec son désintégrateur lorsqu'elle lui expédia trois projectiles qui se fichèrent dans sa poitrine. Sans s'occuper de vérifier l'efficacité de ses tirs, et maudissant le geôlier qui avait eu le temps de se servir de son arme, et sans doute de déclencher l'alarme dans la forteresse, elle s'élança vers les cages en appelant
« Goraltosef ?»«
Oui, je suis là. »
Voici pour cette semaine. Les interprètes pour cette deuxième partie, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Hersing, Fred dans le rôle de Goraltosef, et moi-même dans le rôle du garde et à la narration. Je rappelle que l'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.